les écarts sociaux restent aussi brutaux qu'ils étaient il y a 10 ou 15 ans, quand il y avait la guerre civile. La violence est toujours la même, sauf que c'est une violence qui est universelle. Maintenant, c'est une violence qui a des origines sociales et qui donc est non seulement présente à la campagne, mais de plus en plus dans les villes. Il y a le phénomène des bandes, qui n'est pas spécifique au Guatemala, des bandes qu'on appelle des maras, dont le noyau dur est constitué par des jeunes qui sont expulsés par application de la double peine aux États-Unis et qui reconstituent des réseaux extrêmement violents, une violence qu'on ne connaissait pas en Amérique centrale et qui sont à l'origine de la plupart des assassinats constatés dans les pays d'Amérique centrale depuis une dizaine d'années.
Qu'est-ce qui explique que cette violence propre à la campagne, est-ce que c'est une violence idéologique ou est-ce que ça a été une violence endémique ?
L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que ce sont des groupes mafieux ou liés à ces groupes de jeunes délinquants qui éliminent les candidats qui soutiennent les programmes de renforcement de l'État, de renforcement de la police, de lutte contre la délinquance.
Qu'est-ce qui fait que la violence n'est pas colmatée ?
L'État est très faible et l'État n'a pas de légitimité. L'État non plus n'a pas de moyens. Il y a eu une fenêtre de paix et de réconciliation qui a été créée par les traités qui ont été signés dans les différents pays, Salvador, Nicaragua et Guatemala pour l'essentiel. Cette fenêtre de paix a libéré un certain nombre de militaires qui sont devenus des ex-militaires et des guérilleros qui sont devenus des ex-guérilleros, donc des gens qui n'avaient comme autre formation que celle des armes, sur un marché du travail qui a été incapable de les absorber. Donc ils ont basculé dans la délinquance. Tout le problème de savoir si celui qui sera élu va avoir les moyens de changer beaucoup de choses au Guatemala. Aussi, au-delà de phénomènes de délinquance classiques, il y a le problème du trafic de stupéfiants. Et donc il y a évidemment là une incidence très forte sur le déroulement de la campagne, son caractère sanglant, et sur aussi la difficulté qu'a l'État à maîtriser quoi que ce soit, dans la mesure où ses moyens sont infiniment inférieurs à ceux que peuvent proposer pour corrompre les agents de l'État, les mafias de la drogue.
Alors, une des grandes particularités de cette campagne, c'était quand même la candidature de Rigoberta Menchú, qui finalement n'a pas vraiment réussi à s'imposer sur l'échiquier politique. Comment est-ce qu'on l'explique ?
Alors, Rigoberta Menchú est très connue à l'étranger. Elle l'est beaucoup moins au Guatemala. Et c'est vrai aussi que son image a été altérée par un certain nombre d'affaires d'argent. On a évoqué son implication dans une implantation de réseau de pharmacie il y a quelques mois. Donc elle ne bénéficie pas non plus d'appui institutionnel très fort. Et il y a un décalage, ce qui arrive assez souvent, entre les personnes ou les personnalités qui sont les plus connues à l'étranger et les réalités à l'intérieur d'un pays. Le problème est de savoir quelle est son influence réelle au Guatemala. Quand on parle d'Indiens au Guatemala, il faut savoir qu'il y a une cinquantaine de groupes différents, parlant des langues différentes, avec des traditions différentes. Donc il n'est pas sûr que, en dépit de ce qu'elle a pu faire, lui a permis d'avoir le prix Nobel de la paix, que tout cela ait dépassé un cercle relativement restreint de la population guatémaltèque, d'autant plus que les populations indiennes se mobilisent assez peu pour les élections et ne croient donc une confiance relativement réduite dans les capacités des institutions à changer quoi que ce soit à leur niveau de vie.